Bonjour et bienvenue dans ce deuxième podcast de Randstad In-House, réseau d'agences d'intérim hébergées au cœur des sites industriels. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'innovation frugale. Originaire d'Inde, ce concept a pour objectif de faire mieux avec moins et prend tout son sens dans nos économies occidentales à l'heure de l'indispensable préservation du climat et des ressources. Nos trois invités, universitaires et industriels, vont nous expliquer comment et sous quelle forme l'innovation frugale peut s'appliquer à l'industrie. Marc Gigé, bonjour. Vous êtes docteur en économie internationale et économie du développement. Vous êtes aussi président du Club de Paris des directeurs de l'innovation. Alors, première question, l'innovation frugale est-elle une nouvelle tendance de fond ?
Disons que à toute époque, il y a eu la recherche de faire des innovations qui soient accessibles pour tout le monde. Hein. C'est pas du tout un phénomène nouveau. Ça se développe d'autant plus dans les périodes de crise. On est en période de crise, période de guerre et de crise amenée à des innovations simplifiées, accessibles, utilisant les matériaux qui étaient alors disponibles. Et donc, ça revient assez régulièrement sous le nom de low cost, de lean, d'innovation frugale, d'innovation adaptée. Ça va être Ouigo à la SNCF, Sosh dans les télécoms, enfin, ainsi de suite. Et chez Decathlon, énormément de produits. Mais je dirais presque que c'est une démarche de tout Decathlon. Hein. Chez Seb aussi, c'est d'aller à l'essentiel du produit pour avoir la fonctionnalité de base, en plus respectueuse de l'environnement, donc tu utilises peu de matière, qui va à l'essentiel, qui est durable.
Merci Marc Gigé. Maria Lucia Porto-Carrero, bonjour. Vous êtes Innovation Program Manager Circular Economy chez Tarkett. Selon vous, comment est-ce que l'innovation frugale peut s'adapter à l'industrie ?
Je pense qu'il y a un changement qui se passe depuis des années sur comment optimiser les ressources qu'on a, mais aussi d'utiliser des nouveaux matériaux qui sont très intéressants pour l'innovation dans les produits, comme c'est les matériaux et réutiliser, recycler, ou comment déjà travailler sur le design d'un produit pour le rendre recyclable, mais pas que ça, aussi le rendre réutilisable ou même réparable, ou avec aussi une notion de durabilité dans le temps. Et basiquement, quand on parle d'une industrie comme celle de Tarkett, c'est le revêtement de sol, c'est de pouvoir faire des revêtements de sol avec une bonne performance technique, un bel design visuel, mais en même temps avec une mindfulness, je dirais, de l'utilisation des matières premières qui rentrent dans ces revêtements de sol, ainsi que l'énergie et la quantité de main-d'œuvre pour le fabriquer. Tout ça pour rendre un produit avec la même qualité qu'un consommateur demande, mais en sachant qu'on a utilisé les ressources de la façon la plus optimale possible.
Anne-Sophie Pierre, bonjour. Vous êtes, quant à vous, la référente en innovation frugale chez Decathlon. Vous êtes reconnue comme des pionniers en la matière. Qu'est-ce qui fait de vous des champions de la frugalité ?
Alors, ce principe, cette approche, en fait, de l'innovation frugale, bah, elle était déjà un peu dans notre ADN et dans nos gènes dès la naissance de Decathlon. Non seulement parce que je pense que cet état d'esprit de la débrouillardise, voilà, on l'a, on l'a en faisant des protos, en cherchant, etc. Mais aussi dans notre sens et dans notre valeur. Donc, le sens de Decathlon, c'est rendre accessible les bienfaits du sport à tous. Et finalement, le sens de l'innovation frugale, à quoi ça sert ? Bah, ça sert à rendre accessible quelque chose qui était inaccessible pour les personnes. Donc, finalement, on va essayer de l'adapter, de l'utiliser, de l'appliquer dans la conception de nos produits. Comment augmenter la valeur environnementale de nos produits, leur valeur esthétique, leur valeur d'usage, en réduisant les ressources. Donc, je n'ai pas dit réduire les prix, ça, c'est une conséquence. Mais en réduisant les ressources, ça veut dire en réduisant le nombre de matières, le nombre de composants, le nombre d'assemblages, l'énergie, et peut-être en simplifiant du coup les savoir-faire techniques pour atteindre la fabrication de ces produits.
Et à quel moment commence l'innovation frugale ?
C'est vraiment de partir dès le design des produits et comment les décisions qui sont faites à ce moment-là dans la conception des produits vont avoir un effet dans toute la durée de vie du produit et même après la prochaine utilisation de ce produit. Donc c'est en fait l'étape clé, c'est le design des produits, où on doit faire les bons choix et les bonnes décisions pour faire un produit avec les bons matériaux, avec les moins de matériaux possibles si nécessaire, qui va nous rendre un produit durable et beau et fonctionnel avec toutes les caractéristiques qu'on doit respecter quand même, et en même temps pouvoir assurer à la fin d'utilisation de ce produit la récupération maximale de la valeur des matières. Donc en effet, ça se joue dans toute la chaîne.
Et est-ce que c'est une démarche collaborative?
Il y a vraiment un travail collaboratif qui se passe avec différentes équipes dans tout l'ensemble de l'organisation pour pouvoir y arriver à une solution qui arrive à obtenir les objectifs qu'on s'est donnés. C'est la logistique, c'est la production, c'est les R&D, les recherches et innovation, même le côté financier de comment réfléchir à calculer les impacts ou les bénéfices d'un produit de ce type. Et c'est vraiment l'ensemble des différents départements de la société qui doit travailler, collaborer pour pouvoir venir avec une solution.
Et oui, justement. Est-ce que l'un de vous a un exemple à partager?
Chez Faurecia, chaque personne remet 23 propositions d'innovation par an. Hein, chaque salarié, pour vous donner une idée.
Ah oui, quand même. Et Anne-Sophie Pierre, d'après vous, qu'est-ce qui rend un produit frugal?
Pour savoir si une réponse est frugale, il faut répondre à ces trois questions. Un, déjà, est-ce qu'on fait mieux qu'avant? Si on ne fait pas mieux qu'avant, bah, ce n'est pas de l'innovation. Deux, est-ce qu'on a baissé l'impact environnemental? Parce que ce point-là, baisser l'impact environnemental, utiliser moins de ressources, développer l'économie circulaire, l'économie de partage, tout ça, c'est dans le noyau dur, on va dire, de l'innovation frugale. Et troisième point, c'est est-ce que ça permet la résilience des personnes?
Vous avez un exemple concret?
On peut éventuellement aussi parler d'une lampe qui s'appelle la Motion Light, qui est une lampe de course, donc pour les runners qui pratiquent la nuit et en ville, où là, en fait, cette innovation, ça a été... Donc, c'est le même besoin d'usage qui est de s'éclairer. Par contre, là où on a réduit drastiquement en fait les ressources, à tel point que c'est devenu une innovation, c'est que cette lampe n'utilise pas de piles. Voilà, c'est le mouvement du coureur qui met en contact en fait une bobine et un aimant et qui crée de la lumière.
Et quels sont les principaux freins au développement de l'innovation frugale?
Je dirais que parfois, le frein, en tout cas que moi j'ai pu rencontrer chez Decathlon, c'est un frein qui est, je pense, très humain, c'est la peur de renoncer. C'est-à-dire que quand on veut essentialiser, bah, ça peut faire peur en disant « bah oui, mais bon, pour nos clients, pour nos utilisateurs, on veut le max, quoi. On veut le maximum de valeur ». Pour le juste prix. Donc, c'est difficile des fois, quand on essentialise, de prioriser, parce que essentialiser, ça veut forcément dire qu'on renonce à des choses.
Vous parlez d'un frein humain, donc. Mais est-ce qu'il y a aussi un frein économique?
On a beaucoup de mal à produire en France du low cost ou du frugal, par la réalité des coûts, des salaires, des taxes, des réglementations.
Et est-ce que passer à l'innovation frugale demande aussi des investissements et des aménagements?
Il y a en effet des aménagements importants à faire. Ça dépend. Pour certains, usines plus importantes que les autres. Mais pour commencer, là, comment on va basculer vers l'énergie renouvelable de plus en plus? Et comment est-ce qu'on va réfléchir les nouvelles lignes de production qui soient les plus versatiles en termes de l'utilisation des différents types de matières, des différents types de construction de produits? Et essayer aussi de penser au-delà de la façon comme on était habitué à construire un produit. Donc, oui, il y a des aménagements hyper importants à faire et des investissements aussi.
Et est-ce que tout cela a une conséquence sur la place de la France, de l'Europe, dans la course à l'innovation frugale?
Non, l'Europe n'est pas du tout à la traîne sur ce sujet. Il y a vraiment une accélération très importante que je vois depuis, je dirais, plus ou moins 3-4 ans, une accélération hyper importante sur tous ces sujets-là. Déjà avec aussi la Commission européenne qui a commencé à parler de l'économie circulaire de façon plus sérieuse il y a peut-être 5 ans. Et puis le Green Deal, et puis beaucoup de choses qui se passent, qui sont faites vraiment une accélération et sur toutes ces démarches, et aussi une prise de conscience amplifiée aussi qui existe aujourd'hui, et de la côté de consommateurs, de clients, qui demandent vraiment connaître plus comment est fait nos produits, et l'énergie utilisée, les matériaux utilisés, qu'est-ce qu'on va faire à la fin de l'usage. Il y a vraiment une augmentation de conscience très importante chez nos clients.
Merci à tous les trois pour vos témoignages et merci à vous de nous avoir suivis pour ce deuxième podcast, Les Voix de l'Industrie. Retrouvons-nous sur notre blog, le Club In-House. Il réunit des retours d'expérience, des études et des articles de fond sur les problématiques industrielles. À bientôt.